Je vais juste prier, et ensuite je vais vous raconter une histoire. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Remplis ce lieu, Saint-Esprit. Viens dans le nom de Jésus affermir les cœurs en toi. Enracine les cœurs dans l'amour. Ton amour, Seigneur. Afin que tous nous puissions expérimenter combien est long, large, haut et profond l'amour de Christ qui dépasse toute connaissance. Nous avons tant besoin de toi. Viens, Seigneur, nous permettre de marcher d'une manière digne de toi, en portant une multitude de fruits qui demeurent en toutes sortes d'œuvres bonnes pour la gloire de ton nom et que nous puissions te faire connaître comme il se doit, avec efficacité, pour que tu puisses régner encore plus en nous et au travers de nous dans cette nation. Merci de faire de nous tes enfants. Merci de nous choisir. Merci, Seigneur, pour ta parole qui renouvelle, qui crée, qui transforme, qui libère, qui délivre. Nous nous attendons à toi. Que ton règne vienne dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est l'histoire d'un prof qui a deux étudiants dans sa classe qui s'appellent Johnny. Il y a plusieurs, mais deux qui s'appellent Johnny. L'un est un jeune joyeux, serviable, et c'est un excellent étudiant. L'autre est surtout grincheux, triste, et n'est pas très bon à l'école. Lors d'une réunion de parents d'élèves, la maman d'un des Johnny vient voir le prof et lui demande comment ça se passe avec Johnny. Par erreur, le prof a présumé que c'était la maman du Johnny joyeux et excellent. Alors, il lui dit « Je ne pourrais vous dire à quel point je l'apprécie. Je suis très heureux qu'il soit dans ma classe. » Le jour suivant, le Johnny grincheux vient voir son prof et lui dit « Ma mère m'a dit ce que vous lui avez dit à mon sujet hier soir. Je n'ai jamais eu un prof qui a voulu de moi dans sa classe. » Et ce Johnny grincheux a été extrêmement touché par les éloges, par erreur, du prof. Le résultat, à partir de ce jour, il a commencé à faire ses devoirs à la maison. Quelques semaines plus tard, il est devenu un de ceux qui travaillent le plus dur et un des meilleurs amis du prof. Sa vie a changé du tout au tout à cause d'une parole d'encouragement accidentelle. Parce que le prof s'est trompé de Johnny. Le Johnny grincheux a reçu les compliments que le Johnny qui travaillait bien aurait dû avoir. Parce que le prof n'a pas demandé à la maman, c'était la maman de quel Johnny. Il a présumé. Et son erreur a permis à un élève qui ne travaille pas bien de changer parce qu'il s'est senti juste accepté. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me dis, waouh, sur une vie accidentelle, un encouragement accidentel, une vie peut changer comme ça. À combien plus forte raison sur des encouragements intentionnels. Une vie peut changer pour l'ailleurs. Et j'aimerais ce soir, et je vais essayer par la grâce du Saint-Esprit, de vous encourager, parce que vous faites déjà un super travail à clé. Et nous sommes là parce que nous nous réjouissons de la connexion divine que Dieu nous donne avec vous, mais parce que aussi nous croyons en vous. Et nous remercions le Seigneur de nous permettre de collaborer avec vous pour que nous puissions ensemble aller de progrès en progrès. Et vous encourager d'aller de progrès en progrès. Vous encourager réellement à avoir une foi qui est extrêmement fructueuse. Une foi qui fait la différence dans votre vie. J'aimerais vous encourager à avoir une foi qui n'avorte pas, Et le thème de ce soir, c'est n'avorte pas ta foi. Vous savez, je me pose toujours la question, comme chaque responsable d'église, pourquoi parfois certains chrétiens ont du mal à être affermis dans leur foi? Pourquoi on vient à l'église et on a tant de mal parfois à avoir une foi stable? Parfois, c'est des années de vie d'église et pourtant la foi est ébranlée. Et j'aimerais vous dire qu'un des constats, on a plusieurs, mais un des constats par rapport au thème que le Seigneur m'a mis à cœur de voir avec vous ce soir, c'est parce que la foi est avortée par l'inaction. La foi est avortée par l'inaction. Et c'est un danger. La foi a besoin d'action pour se développer. Elle a besoin d'action pour se développer. Jacques 2, 20 nous dit ceci. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Une autre version dit, tu vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Donc, pour que la foi atteigne son plein épanouissement, pour que la foi atteigne son plein potentiel, elle doit être combinée à l'action. C'est crucial. Sinon, elle va stopper en chemin. Et le mot ici, agissez ensemble, agissez avec ses œuvres, c'est le mot grec synergeo, qui parle en réalité ici d'énergie efficace, redoutable, fructueuse. Une énergie fructueuse pour faire la différence. Et le mot son parle d'être associé, d'être assisté, d'être renforcé par cette énergie. Tu as fusionné avec cette énergie pour être efficace. Et pour que la foi soit efficace, il faut donc nous associer. Il faut associer notre foi à l'action. Il faut agir. Et le mot rendu parfaite ou plein épanouissement, c'est le mot grec teleio qui signifie mener entièrement à bonne fin, accomplir, finir, achever, compléter, parfaire. Rendre complet, être trouvé parfait, amener jusqu'au but proposé, atteindre l'objectif, avoir une foi couronnée de succès. Et c'est bon de comprendre que ici Jacques dit, wow, il est bon que votre foi ne reste pas inactive. Il faut que votre foi agisse avec les œuvres, qu'elle soit agissante par les œuvres. Le fait de s'associer à l'action va produire une efficacité qui va amener la foi à maturité. Et ça, c'est crucial. Je me dis, si aujourd'hui, tous ici dans ce lieu, vous et moi, nous nous appliquions vraiment, véritablement, sincèrement, méticuleusement à appliquer tout ce qu'on connaît déjà, on n'aurait réellement pas le temps, un, de s'ennuyer, et ce qu'on connaît déjà est suffisant pour nous faire progresser dans la foi. Ce qu'il y a, c'est que on ne combine pas assez notre foi à l'action. Pourtant, on a beau venir à l'église, on a beau faire des relations d'aide. Le mot « accompli » rendu parfait parle de cet accomplissement d'un événement qui a été promis ou prophétisé, vu dans l'esprit. Par exemple, Ça parle de ces promesses que Jésus venait accomplir, c'est le même mot. Et à l'église, et Bruno partageait aujourd'hui à l'école, on est pour les relations d'aide, on est pour tout ce qui est écoute spirituelle. C'est génial. C'est génial. Mais si ça, c'est un substitut à la pratique de la parole de Dieu, c'est inefficace. C'est tout simplement inefficace. Et donc, Reinhard Bonnke a dit un jour, ceux qui pratiquent la foi, qui passent à l'action, dépassent ceux qui seulement écoutent ce que dit la parole. Ceux qui pratiquent la parole dépassent dans leur croissance ceux qui pratiquent la parole. Et j'aimerais vous encourager à réaliser que vous avez déjà aujourd'hui ce qu'il faut pour avoir une foi plus complète, qui est rendue parfaite. Parce que ça signifie sinon que la foi sera inachevée. Ça signifie que la foi sinon sera avortée. Le mot avorter dans le dictionnaire français parle non seulement d'expulser un embryon ou un fœtus avant son terme, ça parle aussi d'interrompre un processus. Ça parle d'interrompre ou d'arrêter un développement en plein progrès. Ça parle, le mot avorter parle de ne pas aboutir. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, il y a des projets extraordinaires avec l'école clé, il y a vraiment des 40 projets, j'hallucine, plus de 40 projets, c'est top. Les frères et sœurs passent à l'action, il y a des choses magnifiques qui se mettent en place. Mais tous ces projets en progrès, dans les actions qu'on doit mettre en place, a pour objectif de rendre la foi complète. De rendre la foi complète. Et c'est ce qu'on doit réaliser. J'aimerais t'encourager vraiment à réaliser que tu as plus qu'il ne faut pour que ce processus de foi que Jésus a placé dans ton cœur puisse aboutir. J'ai lu ce passage déjà à l'école ce week-end, un passage connu, mais il est tellement bon de se rappeler. Lorsque Jacques 2, 21 nous dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Il y a dans ton cœur aujourd'hui, que peut-être que tu ne connais pas, mais il y a dans ton cœur déjà aujourd'hui la parole qu'il faut pour que tu sois sauvé de certaines situations que tu rencontres. Il y a déjà dans ton cœur aujourd'hui la parole qu'il faut pour que tu sois sauvé de certaines situations difficiles. Et il continue en disant seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et il oublie qui il était. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Qui ici a envie d'être heureux dans tout ce que tu fais? Et bien voilà, Jacques 2 nous donne la solution. C'est-à-dire, ça parle d'être heureux dans ton couple. Ça parle d'être heureux dans ta famille en tant que frère, et avec les sœurs, etc., que tu as, ta famille d'église, dans ton travail. Ça parle d'être heureux dans l'activité que tu entreprends. La foi fait naître une destinée en nous. cette destinée que Dieu a préparée d'avance. Et on vous encourage à mettre des projets en place qui soient un moyen pour manifester votre destinée. Mais pour que ces projets soient aboutis, il faut combiner donc la foi avec l'action, parce que sinon, tu peux avorter ta destinée. Elle peut ne pas aboutir parce que tu ne combines pas ce que tu connais déjà à l'action. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Il faut qu'on combine ce qu'on connaît déjà avec de l'action. Et lorsqu'on y conforme nos actes, l'apôtre Jacques dit, alors on est heureux dans toute l'activité, dans tout ce qu'on fait. Et c'est bon ça. Il n'y a pas besoin là juste d'aller juste faire un spa après le travail pour l'oublier. La pratique de la parole par la foi va te permettre de faire en sorte que ta vie devienne un témoignage. Va te permettre que tu expérimentes Dieu, et quand la parole devient vivante en toi et que ton histoire fusionne avec son histoire, ou que son histoire devient ton histoire, ou que tu préfères ton histoire révèle son histoire, à ce moment-là, ta vie devient un témoignage. Et ça, c'est bon. Quand un chrétien est actif dans la foi, son témoignage n'est pas rassis. Il est frais. Il a toujours des choses à raconter. En venant ici en voiture à l'aéroport, là, à La Réunion, je suis à La Réunion pour aller à l'aéroport, j'ai un frère au téléphone. Il ne me lâchait plus tellement me raconter de témoignages. Michael. Lâchez plus. Attends, Steph, t'as deux minutes. Alors, tu sais, dans la famille, là, il y avait un oncle à moi, il est à l'hôpital, il parle pas depuis un moment, il y a un traumatisme. Et ben, j'ai prié pour lui, il a parlé. Et ben, quand la famille a vu, et ben, tout le monde était content. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Ça marche son truc. Et puis, donc, du coup, après, il voulait que je prie pour eux, j'ai prié pour eux. Je dis, waouh, super, gloire à Dieu. Après, il me dit, attends, mais raconte un autre témoignage. Je dis, Michael, excuse-moi, merci, je te rappelle plus tard. Mais dans l'ivresse des témoignages. Mais ça peut arriver à toi aussi. Yes, ma sœur. Ça peut arriver. C'est ce que Dieu veut. C'est qu'on combine notre foi à l'action pour parfaire notre foi, et que le témoignage de ta vie est un témoignage frais. C'est pas, oh, tu sais, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a 40 ans de cela, j'avais le feu de Dieu. Et là, quand je priais, mon ombre guérissait les malades. Mais aujourd'hui, mon ombre est traumatisé. Je veux dire, Dieu désire qu'on aille de gloire en gloire. C'est son cœur. La vie chrétienne, malgré les difficultés, doit être fun. Je répète, je viens de ce côté. La vie chrétienne, malgré l'adversité, doit être fun. Elle doit être palpitante. Parce que tu expérimentes Dieu. La foi fait en sorte que dans l'expérience de tes circonstances, eh ben, tu expérimentes Dieu. C'est l'expérience de Dieu dans tes circonstances qui produit en toi la foi. Et ça, c'est bon. C'est comme, je ne sais pas, j'ai une image de deux rails parallèles. Tu as le rail du temps, qui est le rail naturel, avec les événements, les circonstances, l'adversité, etc. Et puis le rail de l'éternité. Et tu peux taper dans ce rail à n'importe quel moment de la journée, par le moyen de la foi, afin que le rail parallèle se croise comme une croix. Et que là, tu expérimentes la vie d'en haut, ici-bas. Et c'est ce que Dieu veut. Mais pour ça, il faut une foi qui agit. C'est une foi qui est fraîche dans sa vie chrétienne. Il y a un passage dans Marc 4 qui m'interpelle. Et j'aimerais le lire ensemble parce que je crois et je prie pour que tous nous puissions expérimenter Jésus comme ça. Après avoir renvoyé la foule dans Marc 4, 36, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir, les menteurs. » Les menteurs, ils ont peur, mais ils ne sont pas en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Mais j'aime leur interpellation. C'est dans leur expérience de Christ Jésus. Ils s'exclament en disant, « Mais qui est donc cet homme ?» Ma question, c'est, est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans l'expérience de Dieu dans tes circonstances que son cœur s'écrie la même chose, où tu te dis, mais waouh, qui est donc ce Dieu qui est capable de me délivrer avec autant de force et de puissance? La délivrance que Christ a opérée en parlant au vent et à la tempête a produit en eux une sainte crainte. Je me dis, être émerveillé par sa main puissante dans ta vie qui te délivre de l'adversité, produit en nous de la crainte. Ce n'est pas une crainte où tu as peur, c'est une crainte où tu te dis, mais wow, il est dangereux. Mais il m'aime tellement que dans l'adversité, il m'a délivré et sa délivrance qui manifeste et qui démontre son amour produit en moi une crainte. La liberté qu'il m'offre par sa puissance me fait exclamer en révérence, avec une sainte crainte qui dit, mais waouh, mais qui est donc cet homme? Qui est donc Jésus? Est-ce que ça s'est... Ne lève pas la main, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et est-ce que ça t'arrive encore? Où tu te dis, mais c'est impressionnant! Je ne m'attendais pas à ce qui se passe, et quand ça se passe, tu fais, mais waouh! Et tu es traumatisé par sa bonté. Traumatisé par sa bonté envers toi. Parce qu'il est tellement bon, tu fais, wow! C'est une bonté peu commune, pas de ce monde, qui t'inspire une révérence envers lui. Écoutez ce passage, Jérémie 33, 9. La ville de Jérusalem fera ma renommée, ma joie, et sera une source de louange et de gloire parmi tous les peuples de la terre, qui apprendront tous les bienfaits dont je la comblerai. Ils trembleront de peur et seront terrifiés en voyant le bonheur et la prospérité que je lui donnerai. Jérémie 33, 9. Ici, Dieu dit, comprenez bien, c'est un verset prophétique qui parle en réalité de son peuple, qu'est l'Église. Et Dieu dit ici, je vais tellement l'enivrer de ma vie de bonheur que ceux qui vont l'entourer vont trembler et vont être effrayés. Comment se fait-il que l'amour qu'il manifeste, les bénédictions qu'il donne, peut à ce point inspirer la crainte aux autres? Ça m'interpelle, moi, en tout cas. Mais c'est d'arriver à tellement expérimenter sa bonté dans ta vie que tu es en train de te dire, mais qui est cet homme? Un peu comme ce frère qui m'appelle avec les témoignages. Il me dit, mais Steve, attends. Il ne me lâche plus. Il me dit, tu me rappelles après? Je dis, je te rappelle la prochaine fois quand j'arrive, je te rappelle. Et je suis sûr, le temps que je le rappelle, il y aura encore d'autres témoignages. Parce que c'est un frère dont le niveau d'audace et de folie de foi, qui s'en fiche de ce que les gens pensent, est très élevé. Et donc il y va, et rempli de compassion à chaque fois qu'il voit quelqu'un dans la rue ou quelqu'un dans son travail avoir un problème, il ne peut pas. Et il y va. Et il voit que des guérisons, plein, il y en a plein dans l'église. Je prends un exemple. Et gloire à Dieu. Et il est juste touché, il pleure de joie en disant, mais je ne mérite pas tout ça. Comment ça se fait que Jésus m'aime comme ça, me dit, c'est incroyable. Et c'est une bonté qui inspire une révérence. Imaginons l'église de Christ inspirée à la société une sainte crainte, tellement la présence de Dieu remplit son peuple d'une prospérité, c'est d'une paix qui dépasse toute intelligence. Vous n'avez pas envie de ça, vous? C'est le cœur de Dieu. Et Jérémie 33, 9, c'est une promesse. C'est juste bon. Je disais aujourd'hui, le but de l'expérience de la foi, c'est de nous conduire à l'expérience de son amour. C'est que tu expérimentes comme les... Crois en Jésus, le réveil pour que Jésus les délivre de l'adversité. C'est quoi ton adversité aujourd'hui? C'est quoi ton problème insurmontable? C'est quoi aujourd'hui qui te pousse à aller vers lui pour que tu le réveilles? Et je prie pour qu'il y ait une telle intervention de sa part que tu te dises, mais oh! Qui est donc cet homme? C'est qui ce Jésus-là? Et là, il marchait déjà avec lui depuis un moment. Mais ils ont découvert une facette de lui qu'ils ne connaissaient pas encore. Et c'est bon. Et Jésus, tout le temps comme ça. Tout le temps, tu dis, franchement, ça, je coupe mes cheveux courts. Sinon, tu fais, c'est pas possible. Galates 5, 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit au travers de l'amour. Le mot agit ici, c'est pareil, c'est le mot energeo, le même mot, son energeo, qu'on a vu tout à l'heure. Ça parle d'une foi qui travaille, qui opère, une foi qui montre son efficacité, qui produit, qui crée, qui fait naître, qui engendre. C'est une foi qui est expérimentée. Ça parle de ça. Donc, comment faire pour ne pas avorter sa foi? Passe à l'action. Comment faire pour ne pas avorter sa foi? Développe une foi responsable. Ça veut dire quoi, une foi responsable? Par exemple, je le disais aussi aujourd'hui, parfois, on cache notre manque de foi derrière la prière. Parfois, on cache notre manque de foi derrière la prière. Et on pense parce qu'on prie qu'on a la foi, mais en réalité, on prie parce qu'on a peur de passer à l'action. Je discutais avec une précieuse sœur à un moment donné, et je l'écoute. Elle me dit, je veux tellement plaire à Jésus, que je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça, je veux tellement plaire à Jésus, que je ne veux pas faire ça. Puis je l'écoute, et puis le Saint-Esprit met dans mon cœur, et là, je lui dis, écoute, ma précieuse sœur, non. Il me semble que tu as plutôt peur de déplaire à Jésus. Je dis, c'est pas bon d'avoir peur de déplaire à Jésus. La foi ne doit pas être conduite par la peur. La foi n'est pas agissante par la peur. Si on a peur et que la peur nous conduit dans sa présence comme les disciples, où tu le réveilles, oui, mais après, il ne faut pas que ce soit la peur qui perdure. C'est comme dans un couple. J'espère pas qu'un mari vient me voir et me dit, tu sais, j'ai tellement peur de perdre ma femme que c'est pour ça que je cherche à la plaire constamment. C'est pas une vie. J'ai tellement peur de déplaire à ma femme que c'est pour ça que j'achète un cadeau tout le temps. J'ai tellement peur que je ne suis pas à la hauteur, que je veux la servir. J'ai tellement peur. Et il va faire plein de choses, mais en étant motivé par la peur. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. La foi doit être agissante par l'amour. Il faut développer une foi responsable. Une foi qui ne se cache pas derrière, par exemple, la prière. Ou derrière les excuses, un exemple, ou derrière la peur. J'aime quand Dieu dit à Moïse, jette ton bâton par terre, dans Exode 3, et le bâton se transforme en serpent. Et la Bible dit que quand le bâton s'est transformé en serpent, Moïse a couru. Je comprends. Moi, je ne suis pas fan des serpents. J'ai vu à un moment donné une émission à la télé où une petite fille était fan des cafards. Si vous avez vu, je veux bien, chacun son truc. Hein. Et elle a plein de cafards, tout ça. Mais je pense qu'elle a un petit souci, ses parents aussi. Hein. C'est mon avis, mais bon. Et on regarde, elle met sa main comme ça, la fille doit avoir 5 ans, puis elle met sa main dedans, plein d'aquariums, c'est passé un aquarium, on dit ça, un vivarium, je ne sais pas. Un cafarium. Et elle met sa main comme ça, puis les cafards montent. Elle dit, ce que j'aime avec les cafards, c'est quand ils montent comme ça sur moi, ils me chatouillent. Regardez comment ils sont beaux. Je fais une question de perception. Hein. Donc, ok, les serpents, chacun ses goûts aussi. Mais Moïse, là, il fuit devant le serpent. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, Moïse, prends le serpent par la queue. Vérifiez sur Internet, vous allez voir comment on prend un serpent. Surtout pas par la queue. Par les écailles. C'est par la tête qu'on prend un serpent. Si tu le prends par la queue, t'es cuit, il se tourne, il te mord. Donc Moïse a peur. Qu'est-ce que Dieu veut l'apprendre? Ne laisse pas ta peur manquer de foi. Si je te dis d'agir, agis. Et on a tous des peurs, d'accord? On a tous un serpent attrapé par la queue. Je vous garantis, c'est quoi ton serpent? Je ne sais pas, demande à Dieu, il te révélera. Mais on a tous des peurs qu'il nous faut confronter. C'est ça, avoir une foi responsable. Pour agir. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Ne cache pas ton manque d'action derrière le manque de temps. L'excuse du manque de temps. J'aimerais vous dire une vérité profonde. On a tous 24 heures. J'ai calculé, j'ai fait un calcul, je me suis assis, j'ai médité. Et je me suis rendu compte que tous ici, on a 24 heures dans une journée. Pas mal, hein? Cette nuit 23, c'est vrai. Merci Serge. C'est juste impressionnant. Et pourtant, parfois, on va dire, mais oui, mais moi, j'aimerais bien passer à l'action, mais je n'ai pas le temps. On a tous 24 heures. Dieu serait-il trompé? Combien ici, on s'est dit, mais franchement, je ne peux pas faire tout ce que j'ai à faire dans une journée. J'ai trop de choses. Si la journée faisait au moins 48 heures, oui. Mais on est en train de dire, mais Dieu, quelle idée, fait une journée de 24 heures. Réfléchis pas ou quoi? Et lorsqu'on est intelligent, mais comme si une journée de 24 heures, mais il a qu'à réfléchir un peu. On ne peut pas faire tout ce que nous, il nous demande lui de faire en 24 heures. En plus, il nous a mis le sommeil avec. J'aimerais vous dire, il faut, une foi responsable ne se cache pas non plus derrière l'excuse du manque de temps. Le temps, la gestion du temps est une question de priorité. Tout simplement. Donc, premier point, pour ne pas avorter ta foi, passe à l'action. Deuxième point, développe une foi responsable. Troisième point, développe une foi proactive. c'est crucial. Il y a trois façons de vivre sa foi. La première, la façon inactive. On entend, mais on ne passe pas à l'action et elle est avortée. Cette façon de vivre la foi est inefficace. Elle nous endort, elle est sans mouvement. Elle rend terne la vie chrétienne. La deuxième, c'est la façon de vivre la foi réactive. Plus inactive, réactive. On réagit à tout ce qui se passe. Dès qu'on a un souci, dès qu'il y a une difficulté, là on vient plus à l'église, là on prie, dès qu'il y a un défi, là on réagit. Et donc, c'est quelque part, on agit en réponse, on agit en retour. On répond d'une certaine manière à une action extérieure. Et on est quelque part téléguidé dans notre réponse par les circonstances extérieures. On réagit. Et puis la troisième façon de vivre sa foi, c'est une foi proactive. Et ça, c'est crucial. Ça parle que tu prépares à l'avance, tu anticipes, tu es proactif. Le mot « pro », comme vous le savez, signifie « avant, au préalable ». Et le mot « actif » parle de cette énergie « energeo ». Ça parle en réalité ici, écoute bien ceci. Que tu es proactif dans ta foi, cela signifie que tu as déjà fait un travail dans ton cœur pour triompher d'une situation avant qu'elle n'arrive. Me suis-tu ? Quand tu as une foi proactive, cela signifie que tu as déjà fait dans ton cœur un travail avant qu'une situation n'arrive. Un travail pour triompher d'une situation d'adversité qui va arriver, si tu préfères. C'est ça être proactif. C'est ce que Jésus a fait à Gethsémané. Il prie intensément, avec des grumeaux de sang. C'est intense. Jésus prie. Ça va être dur. Mais la victoire de la croix, il a obtenu à Gethsémané. Dans la présence du Père, face à cette adversité, il a dit au départ, éloigne cette coupe de moi. Mais non pas ma volonté, ta volonté. Et à Gethsémané, il était en train de faire un travail proactif dans la foi. Jésus n'était jamais réactif. Quand les pharisiens voulaient le prendre au piège pour le faire réagir, il ne réagissait pas. Il cassait leur réaction. Il emmène la femme adultère pour le prendre au piège et qu'il réagisse. Moïse a dit, toi que dis-tu ? Il n'est pas réactif, il est proactif. Il dessine par terre. Il n'est pas en train de répondre à leurs questions. Il fait autre chose. Pour ensuite revenir, et c'est lui qui attaque. Il est proactif. Et c'est ce qui manque souvent dans la vie des églises, des frères et des sœurs. On n'a pas une foi assez proactive. Et je veux t'encourager ce soir à être proactif. Cela parle en réalité d'armer ta pensée avec celle de Christ. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. » On parle souvent de l'armure du chrétien. Commence par armer ta pensée. Armez-vous de la même pensée. Ça parle ici, comme le Christ a souffert dans son corps, ça parle, il faut que ta pensée, elle est déjà proactive. Tu te prépares à l'avance pour traverser l'adversité. Parce que tu veux imiter Jésus. L'apôtre Pierre dit, à un moment donné, je crois que c'est dans 1 Pierre, il me semble, écoutez bien ce qu'il dit. J'aime ce passage dans 1 Pierre, il dit ceci. Essayez d'abord de faire en sorte que mon téléphone... Bref, j'oublie. Voilà. Dans 1 Pierre 3, il dit ceci. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? Et qui peut te faire du mal ? Qui peut t'offenser Si toi, tu es zélé pour le bien, qui peut t'offenser si tu as armé ta pensée à tout faire pour réagir comme Jésus aurait réagi? Ça parle de ça. Le mot ici zélé, c'est pas le mot grec zélos, c'est le mot grec mimétès. Ça veut dire qui peut t'offenser, t'aigrir, te rendre malheureux si tu modélises mimétès, si tu mimes, si tu modélises le bien que Jésus veut que tu fasses. Pierre dit personne. Personne. Et c'est ça être proactif. Vous savez, Bruno partageait une phrase à l'église d'Extravagance puissante il y a 2 ou 3 semaines. Et j'ai bien aimé. Il parlait de cette action prophétique et il disait « Le diable a une avance de quelques millénaires sur nous. Est-ce que vous savez ça ?» Il sait très bien comment on fonctionne en tant qu'homme. Vous savez ça ? Et il est rusé, donc il est capable de scruter et de nous piéger. Mais il n'est pas capable de piéger un chrétien qui est prophétique. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est l'avance que l'ennemi a devient un retard lorsque tu arrives à taper dans la réalité du monde à venir. Me suivez-vous, malgré la fatigue de certains. Écoute bien, s'il te plaît. N'invente pas ta foi. Jésus a plus pour toi. Hébreux 6,4 nous dit, en effet, ceux qui ont une fois été éclairés et qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui a part au Saint-Esprit ici ? Qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont expérimenté, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et ont fait l'expérience des forces à venir. L'ennemi a peut-être de l'avance qu'on réagit dans la chair parce qu'il a beaucoup passé de temps dans ce monde-ci, mais il n'a passé aucune seconde dans le monde à venir. Il n'a passé aucune seconde dans le monde à venir. Et quand un enfant de Dieu est capable, par le moyen de la foi, par le Saint-Esprit, de réagir par rapport à ce monde à venir, où il emmène le ciel sur la terre, où il est capable de manière prophétique d'emmener le futur dans le présent, il surprend le Saint-Esprit. Il surprend le diable plutôt. Merci Bruno. Parce qu'il devient imprévisible. Le diable ne connaît pas comment le monde à venir fonctionne. Et quand il voit un enfant de Dieu amener les forces du monde à venir et réagir avec amour, il est fou furieux, il ne comprend pas, il balise. La manifestation de l'amour, le mot mimétès, parle ici en réalité de cette lumière qui va le faire fuir, parce que quand le diable voit un enfant de Dieu répondre à la haine par l'amour, il voit la puissance de Dieu se manifester. Il voit la puissance de Dieu se manifester. Tout de suite, il balise parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. Manifester l'amour le fait peur. L'amour chasse la peur. Ça parle de ça, ça parle d'anticiper une foi proactive. C'est une foi qui prend la pensée de Dieu du futur par le Saint-Esprit, par le moyen de la foi et surprend l'ennemi. Et il balise parce qu'il connaît les choses de ce monde, mais il ne connaît pas les choses du monde à venir que nous pouvons avoir accès par le Saint-Esprit. C'est bien ça, je trouve. Est-ce que tu te rends compte que là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là, tu peux avoir accès par le Saint-Esprit à cette force du monde à venir qui est capable de surprendre l'ennemi qui t'attaque aujourd'hui. Mais quand nous réagissons toujours, au lieu d'être proactifs, on réagit toujours, l'ennemi nous regarde et fait « Ah, ils sont nuls, c'est facile de les piéger. » Tu mets un petit, une petite brique là, ils se prennent le pied dedans. C'est comme si l'ennemi fait un gros trou comme ça. Et puis il dit, tu vas voir, ils marchent tellement droit devant qu'ils vont se prendre les pieds dedans. Et nous, on marche. Et puis on sort un petit peu, puis il remet un autre, on remarche. On devient trop prévisible pour lui. Et c'est pas son cœur. À Dieu qu'on tombe dedans le trou. Comprenez bien, armer sa pensée parle ici de, comme Pierre dit, de rester sobre. C'est pourquoi saignez les reins de votre rendement, de votre pensée. Soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce de Dieu qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Soyez sobre. Ça ne signifie pas bois pas de vin. Gloire à Dieu. Ça signifie que ta pensée, est-ce que tu connais que ta pensée peut être saoule? Ta pensée peut être saoule. Est-ce que vous savez ça? Par exemple, ta pensée peut être saoulée avec l'offense. Ta pensée peut être saoulée avec le non-pardon. Ta pensée peut être saoulée avec la jalousie. Ta pensée peut être saoulée avec la confusion. Ta pensée peut être saoulée avec les rivalités. La pensée, quand l'apôtre Pierre il se dit « soyez sobre », il parle de cette proactivité qui est capable de garder sa pensée claire pour pas que la pensée soit saoule et que ça affecte notre cœur. C'est bon de comprendre ça. Dieu veut que tu aies une foi active. Dieu ne veut pas que toi et moi nous avortions. Il veut que la foi devienne mature, que le processus ne soit pas interrompu. Il veut que nous puissions avoir une foi qui est responsable. Une foi qui est proactive, tu fais attention. Le mot « soyez sobre », c'est bien le même mot pour dire « ne sois pas saoul ». Mais il ne parle pas ici d'alcool qu'on boit, ça parle ici de péché qu'on gobe. C'est ça qui est terrible et qui saoule toute notre perception. Un cœur offensé ne va jamais être sobre sur la perception de sa situation. Quelqu'un qui est offensé par quelqu'un, est-ce que vous, j'avais déjà entendu quelqu'un très offensé et amer parler de la personne qui l'offense avec, en super, dans l'encouragement et la bonté? Jamais. Elle est offensée, elle est, sa pensée est saoule. Ta pensée peut être saoulée par ton passé. La pensée peut être saoulée par la blessure. Et on ne voit pas assez clair. Et Dieu veut dire, hey, non. Sois zélé pour le bien. Mimétès, mime ce que Jésus fait. Cherche à l'imiter. Cherche à l'expérimenter. Mais qui est cet homme? Et que cet homme te surprend et l'expérience de la foi te conduit à l'expérience de son amour. Et l'expérience de son amour produit un amour en toi avec une crainte qui te permet de garder ta pensée sobre. Me suivez-vous? C'est son cœur. Amen. Alors je ne veux vraiment pas être long ce soir. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux, s'il vous plaît? Je sais que vous êtes fatigués pour la plupart et juste puissiez méditer sur ce qui a été partagé ce soir. Je n'ai même pas à vous demander de venir prier pour vous. Juste vous encourager à venir demain matin si vous pouvez. Bruno aura un message extrêmement à propos et puissant. Et je sais qu'à prendre du temps pour prier, prophétiser, on va prendre du temps pour exercer le ministère demain matin. Mais ce soir, on veut juste vous bénir avec la parole. Et dis là où tu es dans ton cœur, demande à Dieu, est-ce que tu as avorté la foi par une action qui t'a demandé, que tu n'as jamais faite, que tu n'as jamais osé? Est-ce que tu as interrompu le processus? Mais ne te sens pas coupable. Si Dieu te révèle et qu'il te montre quelque chose, là maintenant, quand tu arrives chez toi, note. Prends note et regarde. Et demande à Dieu de t'aider à développer l'action, à passer à l'action. À ne pas t'excuser, avoir une foi responsable. Et surtout, demande au Saint-Esprit de t'enseigner pour être proactif et non réactif et encore moins inactif. Parce que l'inactivité va avorter la foi. La réactivité va saouler ta foi. Mais la proactivité par le Saint-Esprit va te permettre d'avoir une foi qui expérimente son amour. Et cet amour-là va te garder sobre. En gardant les yeux fermés, qui peut juste lever les mains et dire « Steve, moi j'ai besoin, tu pries pour moi par rapport au thème de ce soir. J'aimerais vraiment. » Vous pouvez juste lever les mains s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Merci pour votre cœur, merci pour votre sincérité. Merci, merci. Vous pouvez baisser les mains. Juste prier pour vous dans cette atmosphère de paix. Seigneur Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs, et je te demande, Saint-Esprit, de les révéler les choses à venir. Que l'esprit prophétique que tu es amène le futur dans le présent. Afin qu'ils sachent être proactifs. Arme leur pensée avec ta pensée. Et que tous ces frères et sœurs qui ont sincèrement levé la main puissent chercher à modéliser le bien que tu désires que nous fassions en réponse à l'adversité. Afin que nous puissions constamment triompher et préparer nos cœurs et avoir la victoire à l'intérieur de nous avant même qu'elle se manifeste à l'extérieur de nous, autour de nous. Merci Jésus. Pour chaque frère et sœur, je les bénis en ton nom. Amen.